bonjour à vous, étudiants, étudiantes du cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous cette semaine? Je vous ai réservé une petite surprise cette semaine, en fait, quelque chose de différent. J'ai fait une entrevue avec Nadia Naffi. Donc, Nadia est titulaire de la chaire de leadership en enseignement, mais sur les pratiques pédagogique innovante en contexte numérique. En fait, Nadia souhaitait me rencontrer pour discuter d'un prix en enseignement que j'ai récemment gagné. L'entrevue en question, on a discuté du cours, mais aussi de l'histoire de ce cours, des rouages de ce cours. Vous le savez, là, vous avez suivi ce cours. Il y a toutes sortes d'artifices, mais aussi d'outils là, qui se cachent derrière ce cours. C'est le fruit de plusieurs années de travail pour arriver à un cours qui ressemble à celui que vous avez suivi récemment. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, cette aventure, cette entrevue, mais surtout pour vous, aller voir un peu qu'est-ce qui se cache, quels sont les rouages de ce cours, qu'est-ce qui se cache sous le capot ou dans le back-end. Donc, allez écouter tout ça, c'est ce que je vous propose cette semaine. L'entrevue est assez longue, donc c'est à peu près 1h30 de discussion que nous avons eu, Nadia et moi. Donc, j'ai divisé en deux parties. La première partie, c'est plutôt la présentation des projets pédagogiques que j'ai instaurés dans ce cours. Puis la deuxième partie, ben, c'est une discussion peut-être un peu plus libre entre Nadia et moi. Là, c'est à propos de la pédagogie, des difficultés, des grandeurs, des misères de l'enseignement universitaire. Bonne écoute!
Juste pour te dire pourquoi j'avais tellement envie de te rencontrer, de parler avec toi, du fait que tu as gagné le concours, le prix d'excellence en enseignement, là, c'est comme ça que j'ai pris connaissance de ce que tu es en train de faire. Et puis, du fait que j'ai ma chaire en pratique pédagogique innovante en contexte numérique, et j'ai trouvé que ça serait super pertinent que je discute avec toi, non seulement des projets que tu as faits, mais vraiment d'où vient cette innovation? Pourquoi tu innoves? Pour partager tout ça avec tous les collègues qui vont écouter cette vidéo.
Bien, d'abord, merci de me recevoir. Nadia, c'est le fun. C'est sûr que là, le prix reçu, là, ça a promu un peu mon parcours. Mais ça fait longtemps que j'enseigne, en fait. Ça fait pas si longtemps que ça, ça fait une dizaine d'années. Mais ça fait 10 ans que je travaille dur, avec beaucoup, beaucoup d'étudiants pour essayer d'améliorer un cours. Parce que moi, c'est un cours que je donne. C'est juste que c'est des centaines et des centaines d'étudiants qui traversent ce cours. Pour vous donner une idée, là, pour te donner une idée, Nadia, cet été, c'est 250 étudiants. Donc, c'est beaucoup d'étudiants. Ce qui était étrange, moi, quand j'ai commencé à donner le cours, c'est que c'était beaucoup d'étudiants, mais en même temps, c'était des étudiants en sciences et génie. Moi, ce que je donne, c'est un cours d'éthique, donc qui est assis à la faculté de philo, mais à des étudiants en sciences et génie. Donc, quand j'ai pris ce mandat-là, la difficulté, c'était d'arrimer ces deux cultures-là, là, qui ne sont pas nécessairement... Les étudiants en philo, les étudiants en sciences et génie, ça ne vient pas exactement de la même place. Là, je parle intellectuellement d'où ils partent. En philo, on peut partir des idées, de la lecture, puis là, tout à coup, on analyse des ouvrages là, en allemand, sous-titré en français, pas sous-titré, mais traduit en français, puis on essaie de comprendre tout ça. Alors qu'en génie, c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus appliqué. On part du terrain souvent. Puis donc, il y a eu cette pirouette-là à faire, là, essayer de rentrer. Puis ça, c'est une des difficultés. Essayer de comprendre c'est qui les étudiants que tu as en face de toi. Parce que quand j'ai pris le cours, c'était un très mauvais mariage. En fait, les étudiants n'aimaient pas le cours. Puis les chargés de cours n'aimaient pas donner ce cours-là à ces étudiants-là. Donc, il y avait quelque chose qui fonctionnait mal. Puis c'est un dialogue, je dirais, entre deux cultures académiques là, qui, c'est vrai, là, ça rimait assez maladroitement. Donc, je dirais que ça, c'est le premier défi que j'ai tenté de faire, essayer de comprendre c'est qui ces étudiants-là, qu'est-ce qu'ils sont, c'est quoi un étudiant de sciences et génie, d'où il part. Puis une fois que j'ai compris qu'il partait plus du concret, là, ça a influencé énormément, je dirais, la structure du cours. Au lieu de partir de textes, d'idées, puis tranquillement essayer de les convaincre que ça existe dans la réalité, en fait, toute la structure du cours est surtout pensée à partir du concret. On part de à quoi ça ressemble les sciences et génies sur le terrain, quels sont les problèmes éthiques rencontrés. Puis, tranquillement, commencer à réfléchir à partir des problèmes, puis à partir des problèmes, aller chercher des textes très précis qui articulent, qui nous permettent de comprendre mieux le problème, puis éventuellement, aller chercher d'autres textes qui, là, nous permettent de comprendre les textes plus précis. Mais là, on se rapproche tranquillement de la philosophie, mais c'est dans ce mouvement-là là, que j'ai articulé le cours. Mais tout ça, ça part de l'idée d'essayer de comprendre mes étudiants, essayer d'aller voir c'est quoi le... à quoi ça ressemble un étudiant en sciences et génie, puis adapter le cours. C'est pas juste... c'est un cours de service, là, mais c'est, je suis pas à leur service. Là. Ça reste un cours universitaire, mais en même temps, c'est un effort là, d'essayer de comprendre c'est quoi leur culture, d'où ils viennent, comment qu'ils aiment aborder un contenu intellectuel. Puis pour eux, c'était davantage partir du terrain. La plupart des études de cas que je leur donne, c'est à ça que ça sert. Là. Ça sert à leur dire... pas qu'est-ce que tu penses de telle situation, mais je les plonge dans la situation, puis je leur dis pas est-ce que tu penses savoir nager, je les jette à l'eau, puis je dis ah ouais, vas-y, nage, essaye de t'en sortir. Puis une fois qu'ils ressentent le manque, qu'ils ressentent le manque d'idées, le manque de contenu, bien là, tu leur donnes tranquillement. Puis ça, ce processus-là, je dirais que c'est sûrement la première grande réussite de ce cours, là, essayer de faire dialoguer science et génie. Puis philo. Donc aujourd'hui, ça se fait bien. Moi, je venais déjà des sciences et génie, donc je fais bac maîtrise en sciences et génie, puis après, j'ai fait un doc en philo. Donc d'être capable de maîtriser ces deux champs-là, je pense que ça a aidé aussi au dialogue que je pouvais entretenir avec les étudiants. Donc j'ai préparé une petite présentation, là. Donc ça, c'était mon introduction. Cette classe-là, là, c'est la classe, je l'appelle la classe concrète, là, c'est essayer de se rapprocher des étudiants, essayer de voir à quoi ils ressemblent, leur montrer de vrais problèmes. Donc, c'est une approche par problème, là, si on avait à leur donner un nom. Là. Mais c'est ce premier mouvement-là que j'ai fait pour ajuster le cours à mes étudiants, rendre le cours le plus intéressant et dynamique. Le deuxième ajustement, c'est aussi dans cette voie-là. C'est-à-dire que quand on enseigne l'éthique, les exemples qu'on donne, du moins quand on lit des ouvrages, c'est souvent des extraits de la culture plus classique, traditionnelle, littéraire. On va chercher Sophocle autant que Shakespeare, puis tout ça. Puis... peut-être que pour un étudiant en philo ou un étudiant plus littéraire, c'est une culture qui parle, mais pour mes étudiants en sciences et génie, un peu moins. Donc, un des seconds ajustements que j'ai fait dans le cours, c'est essayer d'aller imprégner mon cours de la culture plus geek ou culture plus populaire. Là. Donc, tout ce qui est super-héros, séries de TV, il y en écoute à plein, là, surtout en ce moment. Donc, c'est injecté dans ce cours des exemples, plusieurs de la culture populaire. Parce que si on prend les grandes tragédies là, aujourd'hui, ben, on ne lit peut-être pas les grandes tragédies, mais ces histoires-là, ces archétypes-là, ces parties de tragédies-là, on les retrouve dans nos séries préférées, que ce soit Game of Thrones ou n'importe quel film de super-héros, il y a ça. Là. Donc, ces écrivains-là modernes puisent... dans la culture littéraire. Donc, je me suis dit, je vais faire ce bond-là. Donc, ça, c'était un autre des ajustements que j'ai fait au cours, puis qui a plutôt bien fonctionné. Là. Donc, tout à coup, là, avant, je posais des questions très théoriques du style le courant déontologique, le courant conséquentialiste en éthique, où là, on étudiait les philosophes en déontologie, philosophes en utilitarisme. Donc ça, c'était l'approche classique. Maintenant, ce que je leur demande, c'est, trouvez-moi dans la culture populaire un exemple de déontologisme. Trouvez-moi un exemple de conséquentialiste. Puis là, ils vont te citer le dernier film qu'ils ont écouté. Donc, tranquillement, l'adapter des concepts qui peuvent être un peu plus abstraits à leur propre culture. Donc ça, ça a été une autre façon d'essayer de me rapprocher de mes étudiants. Mais c'est toujours cette intention-là là, qui se cache derrière à peu près tout ce que je fais. Au début, c'était quasiment une question de survie. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pour donner un cours qui est plate, que j'aime pas donner, puis que les étudiants n'aiment pas recevoir. Qui veut donner? Qui veut enseigner dans ce genre de contexte-là? Donc, au début, c'était ça. Là. Survivre, comprendre mes étudiants, me donner un cours que j'aime donner, leur offrir un cours qu'ils peuvent aimer, même si ça les sort complètement de leur champ typique d'intérêt. Ils n'ont pas un cursus, pas du tout en philo-éthique, et pourtant, il faut quand même leur enseigner ces notions-là. Ça fait partie des qualités en sciences et génie là, qu'on essaie d'acquérir lorsqu'on développer lorsqu'on forme les étudiants en sciences et génie. Donc, la classe concrète, t'es fait sauter dans des vrais problèmes. La classe geek, je dirais que c'est un ajustement de leur à leur culture populaire. Le troisième ajustement que j'ai fait dans ce cours, c'est la classe commodale. Donc ça, c'est un... Mais là, maintenant, il y en a plusieurs qui la connaissent, la classe commodale, mais je dirais qu'elle était moins populaire avant la pandémie. On était peu à l'université quand même à enseigner avec ce mode. Puis moi, ça a été une révélation. Là. C'est-à-dire qu'avant, je donnais... deux fois mon cours en classe, puis là, ben, tu radotes le lundi, tu radotes le mardi. Puis, je donnais aussi un autre cours à distance. Donc, j'avais 2 fois 50 en classe, 100 étudiants à peu près à distance. Puis là, j'avais mes 3 groupes, j'avais 3 ENA. Puis là, je gérais tout ça, cette complexité-là là, triplée. Puis, j'ai assisté à une présentation. On me dit, mais vous savez quoi, c'est possible de faire tout à peu près ça, mais en même temps, dans une même classe. Puis, ça peut paraître intimidant. Puis, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs ajustements importants, puis des ajustements aussi importants à faire dans ma façon de donner le cours. Mais en ce moment, je suis un des plus heureux professeurs du campus, probablement parce que j'ai fait ces choix-là. C'est-à-dire qu'au début, je voulais donner plus de liberté à l'étudiant. Puis, finalement, au passage, je me suis donné aussi plus de liberté. C'est un bel effet, un beau découlant de tout ça. Donc, au début, c'était ça. C'était à accroître la liberté de l'étudiant. Puis, tout à coup, je me suis rendu compte que la mienne aussi, ma vie de prof, était aussi simplifiée. Pour ceux qui ne connaissent pas la classe commodale, c'est assez simple. Là. Moi, je me pointe en classe, disons, le lundi. C'est ce qui était le cas avant la pandémie. Je me pointe en classe. J'ai toutes sortes d'outils, des caméras, des micros. Ça, c'est sûr que c'est un appareillage là, qui a l'air impressionnant, mais finalement, les classes sont plutôt bien équipées pour ça. Moi, je me pointe là, puis je donne mon cours. Je dirais presque comme d'habitude. La seule différence, c'est qu'il y a d'autres étudiants qui sont branchés en classe synchrone, donc qui regardent la diffusion de mon cours. Pour eux, ils peuvent même chatter sur une fenêtre de chat, donc il y a une classe parallèle là, qui est là, en classe synchrone. Moi, j'ai engagé un auxiliaire qui, elle, s'occupe de cette classe-là, là, qui m'aide à faire la transition entre ce qui se passe en classe et ce qui se passe à distance synchrone. Donc ça, c'est mes 2 principales classes. Là. Il y en a une qui est en classe, il y en a une qui est en classe synchrone. Puis les deux, on essaye d'avoir du fun ensemble pendant un lundi après-midi. Et il y a une autre classe qui, elle, est à distance, c'est-à-dire que les étudiants sont tout à fait libres d'aller à leur rythme. J'ai toutes sortes de contenus que je leur offre, des contenus audio, vidéo, des textes, et évidemment. Et puis eux, ils peuvent y aller à leur rythme. Ils peuvent même réécouter à rebours là, les enregistrements de cours, y aller aussi à leur rythme. Mais le but, c'est ça, là, c'est d'offrir toujours ces... Je dis qu'il y a 3 voies, là. Puis à chaque semaine, l'étudiant peut choisir 3 voies. Il va en classe, il reste chez lui synchrone ou il va à distance à son rythme. Quand la pandémie a eu lieu, un certain vendredi 13, il y a juste une voie qui a été éliminée pour moi, c'est-à-dire que moi, je ne me pointe plus en classe. Par contre, j'ai accès à des enregistrements de cours. Donc, les étudiants peuvent écouter des enregistrements de cours de mes autres sessions. puis aussi peuvent avoir accès à un contenu à distance qui avait été pensé pour justement des étudiants à distance. Donc ça, c'était une belle découverte ce vendredi 13 après-midi quand je me suis rendu compte que ben, finalement, mon cours pouvait rouler à peu près de la même façon. La seule chose que j'ai ajoutée au cours, c'est au lieu d'avoir une classe synchrone, j'ai ajouté un podcast. Mais ça, on en parlera dans mon... un peu plus loin, puisque ça, c'est un autre des projets là, que j'ai mis en place. L'autre, le quatrième projet que j'ai développé en classe, celui-là, ça fait longtemps que je le développe, puis c'est peut-être un des plus prometteurs, je dirais, parce que celui-là, j'étais inscrit au SOTL, le Scholarship of Teaching and Learning, la conférence qu'il y avait à Québec, avant qu'elle soit annulée ce printemps. Mais c'est ça que j'allais présenter. C'est un système de trophées et récompenses. Tiens, je vais me prendre une gorgée d'eau. C'est un système de trophées et récompenses que j'ai commencé à mettre en place, à développer en classe pour stimuler l'engagement de mes étudiants. Donc ça, au début, je disais que c'était une question de survie. Là. Moi, je voulais non seulement des étudiants en classe qui peuvent s'intéresser à philo, à l'éthique, mais aussi je voulais des étudiants qui soient participatifs, drôles, aidants, présents. Donc c'est là-dessus que j'ai essayé de travailler, là, l'idée d'engagement universitaire. Donc ça, il y avait toute une réflexion qui était pour moi assez nouvelle. C'est quoi l'engagement en classe? Comment on la définit? Comment on peut la valoriser? À quoi ça pourrait ressembler? Quels sont les comportements attendus à l'université? C'est quoi un cours universitaire? Comment accroître tout ça? Puis c'est dans ce questionnement-là, là, j'étais peut-être rendu un petit peu plus loin là, dans ma réflexion sur le cours, la pédagogie. Mais c'est dans cet esprit-là là, que j'ai essayé de tenter de développer là aussi ce système de trophées et récompenses. Dans le fond, c'est assez simple. Ça s'inspire là, de la culture du jeu vidéo. Pour ceux qui connaissent peut-être pas la culture du jeu vidéo, quand on joue à des jeux vidéo, il y a toujours des trophées qu'on nous donne. Peu importe, là, plein de petits trophées. À la limite, tu te dis pourquoi qu'ils me donnent tous ces trophées-là, mais à la fin, c'est intéressant. C'est à toutes les fois que tu ouvres ton jeu, tu le mets dans la vidéo, puis là, tu as un trophée. Ah, déjà. Puis là, tu joues, puis après, là, un premier tableau, ben, tu as un trophée. Puis après que tu as vaincu un premier monstre, ben, tu as un autre trophée. Puis cette accumulation des trophées-là, au début, je me disais, mais à quoi ça sert? Mais en même temps, il y a d'autres trophées d'exploration. Tu as une carte. Puis si tu prends le chemin tout droit, ben tu as un trophée parce que tu as vaincu le boss. Mais si tu décides d'explorer l'ensemble du contenu, tu as toutes sortes de petits trophées que tu peux aller chercher à droite. Puis ces trophées-là servent plutôt à valoriser l'exploration d'un contenu qui est là. Ici, c'est pour le joueur. Mais vous voyez un petit peu le parallèle que j'ai fait avec le cours universitaire. Donc, c'était l'idée de valoriser des comportements qui sont plus difficiles à valoriser à l'université. À l'université, on valorise évidemment l'excellence, la réussite, la mémoire, le travail. Donc, ça, tout ça, c'est là, c'est présent, puis on donne des points. Hein. Valoriser, c'est pas juste dire bravo, c'est bon, mais on donne des points. Mais il y a toutes sortes d'autres comportements qu'on souhaite, me semble-t-il, en tout cas moi, que je souhaite dans ma classe. Sinon, ma classe est plate. Là. S'ils sont juste là pour retenir ce que je dis, ou moi, j'avais un prof, mon vieux prof de Conin, qui disait, c'est pas des cruches là, que tu remplis d'eau. Là. Hein? Puis on n'évalue pas la qualité de la cruche à la quantité d'eau qu'elle peut contenir. Ça ne fonctionne pas. Un prof, c'est d'autres choses. Une classe universitaire, c'est d'autres choses. Un cours universitaire, c'est d'autres choses. Puis il y a d'autres comportements qu'on peut valoriser. La création, donc un étudiant qui s'exprime en classe, c'est intéressant, qui lève la main, qui participe sur les forums de discussion, qui partage des... il y a des étudiants qui me partagent des schémas. Ils résument schématiquement des parties de cours, qui vont me faire des dessins pour illustrer, qui vont me partager des mimes là, qu'on trouve sur Internet, qui font des liens entre des mimes, puis la culture, le contenu de cours plutôt. Donc, l'idée de création des étudiants qui sont créatifs, qui sont curieux. Donc ça, c'est la première catégorie de trophées et récompenses. Je leur donne toutes sortes de petits trophées et récompenses. À la fin, ça peut leur permettre d'aller chercher 5 points bonus maximum. Mais là, il faut les faire travailler fort. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un point de bonus, parce que tu es créatif, il faut que tu sois créatif. Puis là, je prends en note chaque petite contribution. Donc, s'exprimer, explorer. Donc, les étudiants qui sont curieux, qui font des recherches, par eux-mêmes sur le contenu de cours, qui se mettent à chercher des articles pertinents qui enrichissent le contenu de cours. Ça aussi, c'est un volet qui est récompensé. Évidemment, il y a un volet classique là, de compétition, ceux qui réussissent le mieux, ceux qui ont les meilleures notes, ceux qui participent les premiers dans des forums de discussion, ceux qui réussissent parfaitement une série de questionnaires. Donc, ça, c'est une autre série de trophées. Ceux qui collaborent. Donc, ça aussi, c'est un comportement qui me semble-t-il qu'on se doit de valoriser à l'université, les étudiants qui aident leurs proches, qui participent dans les travaux d'équipe, qui aident les autres à améliorer leurs travaux, qui aident le prof. Il y a des étudiants qui essayent de m'aider à améliorer mon contenu, qui m'aident à corriger certaines fautes ici et là. Mais il y a des trophées, là. Ils participent, ils t'aident, ils aident à améliorer ton contenu, pourquoi pas. Et le cinquième volet, on parle toujours d'engagement. C'est quoi l'engagement des étudiants? Le cinquième volet, c'est celui d'identification. Donc ça, c'est un volet qui est intéressant. C'est l'étudiant en 19-23 ans, c'est une personnalité qui n'est pas tout à fait finie. Hein. Ils se recherchent encore, ils tentent d'affirmer leur personnalité, ils tentent d'affirmer ce qu'ils sont. Puis ça, avec mon système de trophées, je me sers des tableaux, des meneurs là, pour que les étudiants s'associent à un type de personnalité. Il y a des étudiants qui gonflent le torse quand ils sont les premiers de classe, mais il y en a d'autres qui vont gonfler le torse quand ils sont les premiers dans la catégorie aide, collaboration. Il y en a d'autres qui sont plus dans la catégorie création, humour, puis ils veulent s'affirmer de cette façon-là. Donc ça, c'est l'autre volet de l'engagement que j'ai tenté d'adapter à ce système de trophées. Ce système de trophées, c'est une trophée et récompense, c'est une bonne idée. Ça s'inscrit dans le comment ils appellent ça, le gaming, game education, ou je ne me rappelle pas exactement comment ils l'appellent, mais c'est très tendance, je dirais, dans le courant de la pédagogie universitaire. Mais pour moi, ça me demande beaucoup de travail. C'est-à-dire que là, vous m'écoutez jaser, là, mais je travaille fort. Je travaille fort avec ce système-là. J'ai un fichier Excel juste pour ça, là, où je donne des petites marques, puis là, je prends en note chaque contribution de l'étudiant. Puis là, s'il est présent en classe 12 fois, ben il y a un trophée pour ça, parce qu'il était présent en classe, mais il faut prendre les présences. S'il était en classe synchrone, puis il était en classe synchrone présent les 12 fois, ben il y a un trophée pour ça, mais il faut que tu saches, il faut que tu prennes... Donc, tout ça, là, c'est beaucoup de micro-gestion. Je ne le conseille pas à tout le monde. En tout cas, pas partir comme moi, à partir de rien. Mais c'est un projet que j'ai proposé à l'université, au service des technos ici, les techno-informatiques à l'université. Puis eux ont décidé de prendre le relais là, en m'aidant à automatiser. Si vous voulez, plus tard, là, je peux peut-être vous montrer des images à quoi ça sert. À quoi ça sert plutôt, mais j'ai... une programmeuse là, qui n'est pas temps plein là-dessus, c'est ainsi, ils ont d'autres feux à éteindre, là. Mais qui, pendant plusieurs mois, puis là, elle va reprendre à l'automne, est en train de programmer ça, là. C'est-à-dire programmer une application de trophée plutôt générique que les autres profs pourraient servir d'un système comparable. Évidemment, il faudrait l'adapter à la classe étudiante en question, ils ont chacun leur culture, là. Mais un système de micro-récompense qu'on pourrait instaurer, qui serait automatisé. Un des trophées que j'aimerais voir, c'est quand un étudiant ouvre son plan de cours, j'aimerais ça lui donner un trophée puis que ça soit automatique. Parce qu'on veut tout le temps que l'étudiant ouvre son plan de cours, mais est-ce qu'il a au moins cliqué sur le document en question? Est-ce que l'étudiant s'est branché 100 fois à l'ENA pendant la session? J'aimerais ça que tout ça soit automatisé parce que c'est un bel indice d'engagement dans le cours si l'étudiant est présent, engagé, participatif, créatif. Donc, c'est mon quatrième système là, que je tente de développer. En fait, il est en place, mais il est plutôt manuel en ce moment, ce qui me fait travailler fort. Puis j'espère avoir l'aide des services des techno-informatiques pour m'aider à simplifier tout ça. C'était mon quatrième projet. Le cinquième sur lequel je travaille en ce moment, c'est un projet de podcast. Donc, pourquoi j'ai un micro en ce moment? C'est entre autres pour cette raison. C'est-à-dire que à distance, en fait, j'avais deux idées que j'ai combinées pour cette classe-là. J'avais de la difficulté à créer cette communauté-là à distance. C'est-à-dire qu'en classe, la communauté, elle se crée quasiment par elle-même. Il y a une classe, il y a un groupe d'étudiants, ils sont là, ils sentent faire partie d'une communauté, ne serait-ce que parce qu'ils sont en classe. Puis le professeur fait partie de la communauté parce qu'il se pointe en avant, puis il dit bonjour, puis il dit « je m'appelle Jean-François », puis il fait un sourire, puis tout à coup, il y a une connexion qui est faite. À distance, il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts pour recréer. Hein, ce qu'on peut créer là, en deux minutes, cette relation-là avec l'étudiant en classe. À distance, il y a plusieurs artifices là, qu'on peut mettre en place pour créer cette vraie relation-là unique. Hein, ce qu'on peut créer avec un sourire là, en classe, il faut que tu recrées ce sourire-là à distance, puis ça, c'est plus compliqué. Donc, la communauté que je voulais tenter de développer, c'est de créer un podcast. Donc, c'est une émission de radio que j'enregistre à chaque semaine en classe synchrone. Donc, je vais en classe synchrone avec mes étudiants. L'enregistrement dure quoi? 45 minutes. Puis, en gros, je communique avec mes étudiants. Ils sont là en ligne. Ils peuvent poser leurs questions. J'explique un peu le contenu du module qui s'en vient. On est rendu cette semaine au module 12. J'ai présenté le contenu du module 12. Je réponds à leurs questions. On est là ensemble. C'est sûr que sur 250, il n'y a pas 250 étudiants qui se pointent là. Cette semaine, il y en avait 50. Puis, c'est un beau noyau dur qui, là, hein, tu crées une petite communauté qui, elle, on l'espère, là, la rumeur va se répandre. Puis, il y a d'autres, ces personnes-là ont d'autres amis. Puis, il y a une communauté qui peut se créer tranquillement à travers ce qui est un podcast. Les podcasts, pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est des enregistrements. On les publie sur Internet. Il y a des hébergeurs là, on peut juste déposer les enregistrements sur ces hébergeurs, puis eux vont les pousser là, vers les Apple Podcasts, Google Podcasts, puis ce genre d'applications-là. Donc, ceux qui ne pouvaient pas être en classe, ben ils peuvent télécharger ce podcast-là, puis pendant leur transport, pendant leur petite marche là, du matin ou transport en commun, en auto. Habituellement, ça dure 30-45 minutes, ce genre de transport-là. Donc, ils peuvent écouter l'introduction au cours, moi qui leur parle. L'audio, là, c'est un média qu'on néglige, là, mais pour passer un contenu intellectuel, pour créer une relation, c'est intéressant. C'est moins compliqué que la vidéo. Tu le sais, Nadia, là, tu vas avoir à faire du montage. Là. Plus compliqué. Dès qu'on se met à jouer un peu là-dessus, c'est vraiment compliqué, alors qu'à l'audio, on chuchote directement dans les oreilles des étudiants. Il y a une proximité qui est là, qui est plus simple. Puis pour le monter, ben, avec un petit logiciel, on enlève les petits bouts qui ne plaisent pas, puis voilà, c'est réglé. Donc ça, c'était mon podcast. Mon premier auditoire, c'est cibler cette communauté-là, la créer, une petite communauté en classe. Puis ce que je voulais faire aussi avec ce podcast-là, c'est lier cette petite communauté avec mes anciens étudiants. Donc ça, c'était un défi que je m'étais offert, parce qu'à toutes les fois que je croisais un étudiant, moi, j'étais un prof d'éthique, à toutes les fois que je croise un étudiant en sciences et génie, là, il me raconte des problèmes éthiques. Puis là, ah oui, là, j'ai eu tel problème, il y a tel entrepreneur, il m'a offert une bouteille de vin, qu'est-ce que t'en penses? Puis bon, on en jase, mais je me disais que ce serait des expériences très intéressantes pour mes étudiants à entendre. C'est-à-dire que le contenu que je vous explique en classe, ça existe. Il y a un étudiant qui est passé en classe, il y a un étudiant qui a rencontré un vrai problème. Maintenant, il va vous expliquer quel lien il fait entre le contenu de cours, le problème rencontré, les pistes de solutions que lui, il a trouvées. Donc ça, c'est des rencontres que je fais avec mes étudiants aussi. Je les reçois à mon bureau. Alors, on a des discussions. Puis ce que je souhaite faire, c'est élargir tranquillement. Donc créer ma petite communauté en classe, puis tranquillement lier cette communauté-là à des étudiants qui exerce déjà la profession. Puis une fois que l'étudiant sort de la classe, il est déjà abonné au podcast, il va entendre d'autres étudiants comme lui qui rencontrent des problèmes. Ces pistes de solutions-là peuvent l'aider. Puis tranquillement élargir cette petite communauté-là là, qui dépasserait mon 250 étudiants en classe. Là, tranquillement, ça serait plus à la fin, après 10 ans, là, c'est des milliers d'étudiants là, qu'on peut aller chercher, rejoindre. Ils ont des enjeux, des problèmes qui se ressemblent. Donc, pour eux, là, de créer cette petite communauté-là, ça peut être là aussi intéressant. Donc, c'est les 5 petits projets que j'ai. J'en ai d'autres, mais là, je vais me garder une petite gêne là, parce que sinon, ben, je vois que je parle beaucoup, mais c'est ce qui m'intéresse. En fait, j'ai toujours voulu qu'un cours... en fait, là, en ce moment, j'ai 3 garçons. Il y en a un qui vient de rentrer à Concordia là, l'année passée. Puis, ça m'a frappé à quel point un étudiant qui arrive à l'université, ses attentes sont élevées. C'est tellement beau pour eux, un cours universitaire. Puis des fois, j'en vois des cours universitaires, puis je me dis, pauvre, je ne sais pas comment ils vont prendre ça, mais c'est loin. On est loin de cet idéal-là. Tu sais, moi, j'ai des idéaux élevés, puis un cours universitaire, ça devrait être intellectuellement, humainement, pédagogiquement, ça devrait être l'expérience d'une vie intellectuellement. On n'est pas capable de leur offrir cette expérience-là. Mais ça, c'est les idéaux. Mais disant ça, là, je suis bien au courant qu'on est vraiment loin et je me considère aussi vraiment très loin de cet idéal-là. Mais il faut y travailler fort. Puis pour y travailler fort, il faut au moins reconnaître nos failles, nos manques. Hein, si on veut les... Si on, en fait, le pire prof, je dirais, c'est celui qui pense qu'il est bon en ce moment-là. Lui, il n'y aura pas grand-chose pour lui montrer à améliorer ses cours. Mais si vous ressentez le manque, vous sentez à bout de ressources, à bout d'aide, à bout d'outils, ben, je dirais que c'est quasiment un bon signe. C'est-à-dire que vous allez vous mettre à chercher de l'aide. Il y a des ressources extraordinaires à l'université. Il faut juste aller les chercher. Aller chercher de la formation. On n'est pas formé. On n'est pas formé comme prof. Donc, il faut accepter le manque, qu'on n'est pas très bon, surtout au début. Puis, il faut aller se chercher des ressources, de l'aide pour justement essayer d'atteindre ces idéaux-là.